There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors.
There is no such thing as jazz.
There's only a song.
And your spirit. And your ancestors. I don't know what I'd have done without Billie Holiday or Bessie Smith or Sarah. All these I follow in a tradition. Never sounded like anybody but themselves.
Super Jazz Woman. Quand les musiciennes libres d'hier inspirent celles d'aujourd'hui.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Chloé.
Bienvenue sur le podcast Super Jazz Woman. Alors on est installé ici dans la chapelle du Conservatoire de Tours pour un nouvel épisode.
Et Super Jazz Woman, c'est le podcast qui nous fait découvrir des musiciennes d'aujourd'hui, mais aussi des musiciennes du passé qui parfois ont été laissées dans l'ombre et qui ont dû développer des capacités d'adaptation en normes pour affirmer leur place dans un milieu essentiellement masculin.
Donc je suis en compagnie de Guillaume Hasbrouck, pianiste, compositeur et aussi fondateur de la compagnie Frasque.
Je suis en compagnie de Chloé Caïton, chanteuse, compositrice, qui joue dans de nombreux projets, les projets d'Alban d'Arche, le trio Paloma, le groupe Imagens notamment, pour n'en citer quelques-uns, et qui a participé aussi à la recréation de Anna Livia Plurabel d'André Auder avec l'Orchestre National de Jazz.
Comme à chaque épisode, aujourd'hui, Super Jazz Woman va nous permettre de découvrir une musicienne d'aujourd'hui et de croiser son portrait avec une autre figure artistique féminine.
Voilà, on aura un focus en fait sur un ouvrage de la sociologue Marie Buscato dont on vous parlera tout à l'heure.
Mais juste avant, on aura un temps d'échange aussi avec cet invité.
Voilà, tout à fait.
Pour parler de différentes questions de transmission, questions artistiques, de composition.
Et puis comme à chaque fois, on termine par un live.
Ben oui, on est ici dans la chapelle, il y a un piano, il y a des micros, donc on joue ensemble.
Et aujourd'hui, on accueille une flûtiste, compositrice, avec également plein de projets. Il s'agit de Sylvaine Ellary, et on l'écoute tout de suite.
C'est une femme qui danse, disait-il. Une femme qui danse et qui prononce en même temps tous les mots de la langue. En un instant, elle prononce tous les mots de la langue et son corps semble très léger et elle tourne sur elle-même. Elle danse avec une robe épinglée au corps comme dans une étrange comédie américaine. Elle danse des nuits entières, sans fatigue, comme si elle n'était jamais fatiguée, qu'elle ne voulait jamais dormir. Elle danse avec beaucoup de douceur, très près du sol.
Bonjour Sylvaine.
Bonjour.
L'extrait qu'on a choisi de faire écouter de Sylvaine, c'est quand même un extrait où Sylvaine, elle dit un texte. Et en fait, il me semble qu'on n'entend pas de flûte
non.
Dans ce premier extrait. Voilà, c'est juste pour donner un avant-goût d'après de ce qui... Voilà, de parler justement de la fonction de la flûte et où est-ce qu'on peut la retrouver, pas la retrouver, une place un peu particulière. Et peut-être aussi, toi, t'as, en tant que musicienne, ton utilisation de la flûte et ta non-utilisation
oui,
de la flûte aussi,
ça, oui.
Ou plutôt l'utilisation de la voix.
Alors Sylvaine, juste pour parler un tout petit peu de ton parcours, il y aurait évidemment plein de choses à dire. Pour situer un peu ta musique, je pense qu'on pourrait dire qu'elle est un peu au croisement d'un jazz contemporain, de la musique contemporaine, de nouvelles musiques. Et je pense que ce qui te caractérise, c'est un geste très créatif en fait par rapport à l'écriture, la composition, la pensée en fait de tes projets qui sont multiples. On peut parler d'un quartet acoustique qui est Shore Skipping, du trio The Edge of Memories, le quintet Glowing Life. Tu te produis aussi en solo, le solo Frizzly, et puis bientôt un grand orchestre apparemment.
En fait, je me suis armée de courage. J'ai décidé de monter cet orchestre aussi parce que je suis en résidence au Théâtre de Vanves, en compositrice associée, et en résidence au Petit Faucheux. Donc c'est vrai que ça fait aussi des appuis précieux. Et puis, ce n'est pas que juste un contexte d'aide comme ça, de support, mais c'est aussi des discussions. Et c'est au fil de ces discussions qu'en fait, c'est chouette d'essayer de trouver du sens aussi à une présence en résidence dans un lieu. Tout ça m'a donné un peu d'élan, en tout cas, de passer le cap et de se dire je peux écrire pour 9 musiciens. Je l'ai fait au cours de commandes avec l'ONG dernièrement pour le programme Rituel, pour d'autres ensembles aussi, mais concocter tout un programme entier, c'est un bon défi, mais c'est chouette les défis.
Et est-ce que, j'ai l'impression aussi que ça s'inscrit dans une continuité qui est celle d'un intérêt très fort pour les timbres.
Oui, tout à fait.
Et pour des alliages de timbres souvent très particuliers, en fait.
Oui, c'est vrai que ça vient de réflexion aussi, même autour de mon propre instrument, qui est à la fois très répandu et très connu et qui récolte énormément de commentaires en fin de concert qui vont de j'ai toujours détesté la flûte parce que moi-même, alors avec cet amalgame, j'ai fait de la flûte à bec à l'école et j'ai été traumatisée, donc je déteste la flûte, mais en vous entendant jouer, finalement, en fait, je me dis que j'aime bien la flûte. Voilà. mais je savais pas qu'on pouvait faire tous ces sons-là avec la flûte. Et je pense que ça m'accompagne depuis longtemps et que c'est quelque chose que j'aime re-questionner tout le temps, c'est quelle position a la flûte déjà dans un orchestre. Je pense que ça peut être, c'est valable pour tous les instruments, mais il y a quelque chose qu'on attend en tout cas de ce genre d'instrument. Il y a une espèce d'image qui va avec la flûte et notamment la flûte classique. Et moi, je viens de là, de ce monde-là, mais je m'en suis détachée sans le renier du tout. Mais par contre, c'est au cœur de ce que j'explore quand j'écris de la musique. Et voilà, donc ces questions de timbre, effectivement, elles sont vraiment importantes. Et donc là, d'avoir ce panel de timbres, j'y ai pris goût en fait. En écrivant pour l'ONG, là c'était 17 personnes. C'est super. Au début, on se dit on va pas réussir à le faire. Puis moi, j'ai pas vraiment appris à arranger ou à composer. J'ai un peu, autant instrumentalement, j'ai appris vraiment sur beaucoup, beaucoup. Mais après, c'est plus sur le. Voilà, en faisant, en glanant des infos de ci, de là. Et puis sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que. Une fois passé l'appréhension, c'est un jeu. On a un outil qui est génial. Quoi.
Mais je trouve ça très beau en fait que je trouve que c'est très présent en fait quand on écoute tes différents projets. Le fait que ce soit la flûte en fait et aussi toute l'écriture contemporaine pour la flûte et les recherches que tu as menées là-dessus qui t'amène en fait à étendre cette recherche-là et du coup à chercher des interactions avec les musiciens mais qui sont sous cet angle-là en fait. Et c'est très présent dans tes projets, mais peut-être on peut l'aborder via, en fait, parce que le principe de Super Jazz Woman, c'est ces portraits croisés entre musiciennes d'aujourd'hui et puis des figures qui ont pu les inspirer ou les marquer. Et donc, on va peut-être en parler, évoquer.
Oui, alors on a été un petit peu. On aime bien. En même temps, on aime bien ça. Hein, on aime bien se prêter au jeu. On était un peu pris au dépourvu parce que c'est vrai que quand on demande à une musicienne quelle a été une figure d'influence dans son apprentissage, on s'attend peut-être à une figure qui est issue du jazz. Et or là, c'était pas du tout le cas, mais qu'à cela ne tienne. Et donc toi, tu nous as comme ça droppé le nom de PJ Harvey. Voilà, PJ Harvey, This is Love, Stories from the City, Stories from the Sea, en 2009, c'est sorti en 2009. Alors là, on est dans l'univers du songwriting. J'imagine que tu es sensible à cet univers-là, mais peut-être que tu peux nous dire, toi, quel est ton lien à cet artiste.
Cet artiste, elle m'accompagne depuis très longtemps. Je l'ai, étant rennaise et baignée dans les trans musicales, j'ai eu la chance de pouvoir entendre plusieurs artistes de cette époque, des années 90 quand j'étais là-bas au lycée. Mais voilà, elle m'a énormément marquée. Et puis, j'ai un peu suivi tout le temps ce qu'elle faisait, de près ou de loin. Je n'étais pas non plus fan totale, mais voilà, je l'ai un peu laissée de côté. Et j'y suis revenue il y a quelques années. Et en fait, il y a sa voix déjà qui est complètement magnétique. Et c'est vrai que moi, aimant chercher toujours ce lien musique-texte, qui est assez présent en fait dans beaucoup de mes groupes, je suis sensible à ça. Après, je suis pas quelqu'un qui écrit des chansons. J'ai écrit quelques textes pour mon trio, ils se baladent parfois quelques mots à moi parce que j'aime bien gribouiller dans mon coin, mais c'est pas quelque chose que j'ai poussé très loin. Mais par contre, ce que j'aime chez elle, c'est la puissance des mots qui est reliée à la puissance musicale et où les deux se nourrissent tout le temps. Et comment dire? Par album, il y a vraiment une couleur. Mmh. Ça, c'est pas complètement ce que je fais. Moi, je suis souvent plutôt un peu patchwork. Mais récemment, je suis revenue à elle parce qu'en plus, j'ai utilisé un de ses poèmes qu'elle a écrit dans son recueil à The Hall of the End, qu'elle n'a pas mis en musique. C'est juste un recueil de poèmes qu'elle a écrit il y a quelques années quand elle a fait son séjour au Kosovo, Afghanistan, Washington, avec le Seamus Murphy, là, le photographe. Mmh. Et donc, il y en a un que j'ai mis en musique, et donc je l'ai contacté après, pas elle directement, mais en tout cas, c'est sa manageuse, et c'est ceux qui gèrent ses droits aussi, pour demander en disant j'ai mis en musique, je veux faire un disque avec mon quartet Glowing Life, et comment ça se passe. Et ça a été super, parce qu'ils ont demandé d'écouter, et puis en fait, après, ils ont répondu en disant c'est bon, vous pouvez faire un disque, ils prennent une petite part de droit, mais ils ne nous ont pas assommé non plus du tout. Enfin, je trouvais que tout était assez respectueux du travail, quoi. C'était un peu qui tout double, mais... Donc là, voilà, je me suis replongée vraiment aussi dans son univers à cette occasion-là, quoi.
Mais ce choix, je trouve qu'il parle, beaucoup aussi de ta démarche, en fait. Parce que chez PJ Harvey, il y a un côté très pluriel en fait dans les moyens mis en œuvre parce que elle est songwriter, elle est chanteuse, elle est multi-instrumentiste, elle est poétesse,
elle est sculpteuse aussi. Voilà. Hein,
Et en fait ça me fait penser que la question des moyens est secondaire chez elle, mais je vois ça aussi chez toi, c'est-à-dire que par exemple, comme le disait tout à l'heure Chloé, tu t'embarrasses pas de la flûte en fait, dans le sens où tu vas utiliser la flûte à bon escient parce que t'en as besoin à cet endroit-là, mais parce que il y a une intention en fait, voilà. Et j'ai le sentiment que c'est d'abord l'intention et qu'ensuite les moyens en découlent, quoi. Et c'est pas toujours une posture qui est toujours courante dans le jazz en fait, où des fois, on se pose en tant qu'instrumentiste d'abord, des fois. Et c'est très agréable, je trouve, de sentir non que là c'est l'intention qui est première. Je sais pas si.
Bah si, ça me parle. En tout cas, ça me. Tant mieux si c'est ça qui passe, parce que j'ai toujours un grand souci d'honnêteté, en tout cas. Enfin, je me bats avec ça, avec moi-même en premier, pas du tout avec les autres, mais quand j'écris ou quand j'essaie d'inventer des choses, d'essayer de déjà pas répondre à quoi que ce soit d'autre que mon propre, mon désir, quoi, ou ce que j'ai dans la tête, en tout cas, basiquement. Et voilà, que ce soit ça qui guide ma démarche tout le temps. Je sais que j'ai des moyens à la flûte, je suis très virtuose parce que j'ai bouffé mes 15 ans de conservatoire, donc j'ai bouffé des gammes. Mais j'ai jamais aimé écraser l'autre avec un discours musical. C'est plutôt vraiment comment on rassemble les gens. Et oui. Par exemple, pour le grand orchestre, c'est comment je constitue une équipe qui me parle et avec les gens. Et justement, quand je pense à eux, je pense surtout à leur son, en fait, plus aux instrumentistes. Je me dis, ah ouais, j'aimerais bien jouer avec telle personne pour son son, quoi, surtout.
On sent, en tout cas, c'est aussi notre ressenti à l'écoute de ta musique. On sent bien que l'intérêt, c'est pas de te mettre en avant en tant que flûtiste. Tu places la flûte à des endroits qui peuvent être un peu surprenants, justement. Et c'est plutôt une recherche et une exploration et un agencement de sons et de textures qui vont rester au service du collectif.
Oui.
Avec justement cette fameuse utilisation que tu as de la voix qui est bien à toi, en fait. Et on sent qu'il y a quelque chose d'assez aussi libre et naturel. C'est-à-dire, t'es pas dans une voix particulièrement travaillée. Mais ça va sortir comme ça, venir comme ça.
Oui, voilà.
Parce que c'est toi, et c'est parce que c'est... Voilà.
Bah, j'ai pas envie de m'empêcher de chanter ou d'utiliser les mots parce que j'aime. Et en même temps, je me prends pas pour une chanteuse que je ne suis pas. Mais voilà, il y a quelque chose... Et puis, c'est un petit endroit qui m'appartient, qui est très fragile. Donc, des fois, il y a plein de fois où je me dis, non, mais en fait, il faut que j'arrête. Il ne faut plus du tout que j'utilise la voix. Puis, à chaque fois, j'y reviens, mais en fait, parce que ça me plaît. Et voilà, c'est assez agréable d'avoir des petites zones d'expérimentation, sans faire n'importe quoi, évidemment. Mais voilà, qui sont plus sauvages, plus fragiles, plus
bah, libres, vivantes.
Plus libre, ouais. Et puis, flûte et voix, c'est tellement relié. Enfin, pour moi, il y a vraiment... quand je joue de la flûte, j'ai vraiment l'impression que c'est... que je parle, quoi. Enfin, c'est quand même... on articule dedans. En tout cas, voilà, j'aime bien ce truc de... Je s'ouvre ma flûte et puis si j'enlève l'embouchure, il pourrait y avoir un mot qui sort.
Un autre extrait. Toujours le projet Glowing Life. On écoute When It Begins.
Where...
De PJ Harvey, donc là c'est la mise en musique dont tu parlais d'un des textes de PJ Harvey. Et quand j'entends ça, moi en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que pour moi il n'y a pas volonté de faire pop et de faire entrer le jazz dans la pop ou inversement, je ne sais pas quoi, mais plutôt, je vois ça sous l'angle un peu de l'idée de fantasmer la pop, en fait, et d'inventer une pop qui serait à soi, qui serait à toi, en fait. Et bon, voilà, ça me plaît beaucoup.
Et de mémoire aussi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire on peut à la fois écouter plein de musique et se nourrir de ça, mais après, ce qui sort, pour avoir fait plein d'impro aussi, dans l'impro... un jour on est comme ci, un jour on est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça change de tout au tout, mais en tout cas, on apprend à, je trouve, à jouer avec ce qu'on est vraiment. Et si on arrive à l'accepter, c'est chouette parce qu'on on va un peu plus loin.
Et du coup, petite question subsidiaire. Alors, la flûte, parce que nous, du coup, on a imaginé quelle pouvait être une autre figure de la flûte dans le jazz. Est-ce que on peut peut-être faire écouter.
Bah, peut-être on peut faire écouter quelque
Allez,
chose.
Allez, on se fait écouter. Ouais. Voilà, vous avez entendu un extrait de, alors du Black Earth Ensemble.
Voilà. C'est pas un blind test, j'allais dire, c'est Nicole Mitchell. C'est pas possible que ça soit pas
elle. Nicole Mitchell, voilà. Meadow Sunlight in the Swinging Fits.
Un truc.
Bah oui. tu veux, tu voulais pas de blind test, mais finalement. Voilà, je sais pas, est-ce que...
Ah bah si, Nicole, mais je l'ai rencontrée très tardivement, donc c'est marrant, parce que c'est pas du tout une référence, enfin, elle m'a pas guidée spécialement dans l'imaginaire de la flûte, parce que c'est plutôt qu'on m'a dit, quand j'ai fait partie du programme The Bridge, qui allait à Chicago, le programme d'échange, c'est Alexandre Pierton qui m'a dit, tu vas rencontrer Nicole Mitchell, et j'avais déjà un copain qui m'en avait parlé il y a quelques années, mais j'étais passée un peu à côté. Et effectivement, on s'est rencontrés et elle m'a invitée à jouer même une fois à l'université là, à Chicago dans son groupe. Et on se dit un peu qu'on est des sœurs éloignées, mais voilà. Et puis elle a tout ce truc de voix, avec toute une autre tradition. Ouais. Enfin, c'est très chargé là-bas. C'est super d'ailleurs parce que on est très 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 différentes et. Mais elle est extraordinaire. Puis on a travaillé, on a enregistré ensemble avec Michel Edelin. Il avait fait un groupe où il y avait, il y avait quatre flûtes. On était trois flûtes normalement, avec Ludivine Sambour et lui et moi, et Peter Giron et John Betch, contrebasse batterie. Et puis là, pour le label Rogart, il avait invité Nicole, en plus avec qui lui il a déjà travaillé. C'était sympa parce que ça faisait un peu congrès de la flûte, mais moi j'ai trouvé ça hyper sympa comme enregistrement parce qu'il y avait. Que à apprendre les uns des autres et à écouter. Alors, je sais pas si après écouter quatre flûtistes c'est intéressant ou pas, mais en tout cas nous on s'était bien amusé à faire ça.
Comme on est là et on est là aussi pour des fois évoquer des questions un peu autour de, enfin pas un peu vraiment autour de la présence des femmes dans le monde du jazz. Alors nous voilà, notre truc c'était de faire découvrir des portraits de musiciennes un peu dans l'ombre dans l'histoire du jazz. Voilà, il y a eu Marie-Lou Williams, il y a Carla Bley, On sait que selon les musiciennes qu'on invite, les problématiques sont pas forcément les mêmes de l'une à l'autre. Est-ce que toi, tu es traversée par ces questions-là? Je sais pas. Est-ce que...
Je me sens assaillie par ces questions-là par l'extérieur. Enfin, disons qu'il y a quelque chose de qui est presque à la mode. C'est un peu triste de dire ça comme ça. Peut-être qu'il faut en tout cas passer par là. Je suis pas d'ailleurs complètement sûre, mais... c'est des questions fondamentales et moi déjà le fait qu'on me la pose de manière récurrente me fait juste penser que c'est loin que ce soit une question qui est réglée parce qu'apparemment elle reste dans l'air. Bon, les choses bougent quand même sacrément, j'ai l'impression. Mais je suis pas complètement à l'aise moi avec ces questions là parce que aussi j'ai l'impression que je suis un peu à un âge de transition. Il y a eu deux trois grandes défricheuses en jazz, Joël Léand, Hélène Labarrière, Ingrid. Enfin, bon, il y en a beaucoup quelques-unes comme ça, qui ont bien déblayé le terrain. Et puis après, il y a un peu ma génération qui arrive. Et où nous, de toute façon, on a toujours dû faire avec quand même beaucoup les garçons, musiciens. Enfin, on n'était pas 10 000 dans le paysage non plus. Et donc, moi, j'ai jamais. Ressenti vraiment quelque chose de l'ordre de « Ah, je suis une femme et eux, c'est des hommes ». Alors, c'est vrai que maintenant que je travaille plus souvent avec des filles, je sens des fois un peu des différences. Mais finalement, après, j'aime pas tellement, de toute façon, genrer à ce point. Voilà, Mais en tout cas, j'ai pas, pour moi, c'est pas une souffrance. J'ai toujours choisi les gens avec qui je travaillais et avec qui j'avais envie de travailler. C'est des histoires de rencontres et d'amitié. Donc... ce qui est sûr, c'est que par contre, pour avoir lu un peu les féministes, par exemple de la librairie de Milan des années 70, des italiennes, qui étaient assez radicales, j'y ai appris pas mal de choses, et notamment sur la parité. Ce qui ne me plaît pas, c'est de faire miroiter aux femmes une place telle que celle qu'ont les hommes, et qui pour moi est... Enfin, peut-être qu'on peut se poser la question quand on est femme de est-ce qu'on veut cette place-là ou est-ce qu'on veut pas. En fait, et quand on me dit oh, victoire de la musique, il n'y a pas de femme, t'as vu, cette année, il n'y avait pas de femme, c'est horrible. Je dis en fait, est-ce que les victoires de la musique sont.
Est-ce que c'est pas le modèle?
Est-ce que c'est le. Voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que moi, en tant que femme, j'ai envie d'accéder à cette place de pouvoir? En fait, c'est pas. Et c'est pas par pudeur ou parce que je suis une femme et t'as vu, tu veux pas aller trop loin parce que dans ton éducation. Je pense que la seule chose qui est importante, c'est l'éducation, et qu'effectivement, faire rêver les petites filles et qu'elles puissent se projeter et voir des modèles féminins, ça, c'est fondamental. Donc moi, je tiens énormément à la transmission, parce que ça, je pense que c'est vraiment un terrain de bataille important. Mais par contre, les modèles qu'on nous propose, moi, me font pas du tout spécialement rêver. Donc voilà.
Eh ben, peut-être qu'on peut passer à notre chronique du jour, qui aujourd'hui est dédiée à un ouvrage. Alors peut-être, j'imagine que tu dois la connaître. C'est une sociologue du travail qui s'appelle Marie Buscato. Voilà. Donc, elle a mené une enquête ethnographique et sociologique qui dresse un panorama détaillé et critique de la situation des musiciennes de jazz en France. Alors, on ne pouvait pas faire Super Jazz Woman sans parler de son travail. Parce que c'est, si ce n'est le premier ouvrage, un des premiers ouvrages qui parle de ça, de cette question-là, en France, à l'époque contemporaine, puisqu'il est paru il y a... La première édition est parue en 2007 et il a été réactualisé en 2018.
Pour parler un peu du contenu de cet ouvrage, en fait, elle y décrit chez les acteurs en fait, du jazz des comportements, des regards, des gestes a priori anodins qu'elle décrypte en fait en révélant leur signification implicite. Elle est chanteuse amateur elle-même et elle observe notamment dans le cadre des jam sessions, donc ces réunions donc, où se pratique l'improvisation, comment ça s'accompagne de tout un ensemble de codes, que ce soit au niveau des tenues vestimentaires, des postures, des interactions. Et donc ça pose autant de normes implicites qui reconduisent des stéréotypes non formulés, mais pour autant qui agissent, quoi.
Alors, Marie Buscato, elle s'intéresse notamment à la situation des chanteuses. Donc, on n'a pas beaucoup parlé des chanteuses jusque-là dans les podcasts, mais on a parlé des musiciennes qui utilisent leur voix ou qui ont de la vocalité dans leur manière de composer la musique. Donc, certains stéréotypes, notamment la voix qui serait comme un organe naturel, le chant qui serait comme une expression spontanée, le jazz d'interprétation qui serait l'apanage du féminin, justement, où là, vraiment, on essentialise. Voilà. Ces chanteuses, justement, elles font face à un dénigrement de leur qualité et de leurs compétences musicales. Et elles doivent également composer avec un impératif de séduction vis-à-vis du public, voire des programmateurs, qui peut les décrédibiliser aux yeux de leurs collègues instrumentistes. On est d'accord ou pas d'accord, hein, mais c'est vrai que moi, quand j'ai lu l'ouvrage, je me suis dit, c'est incroyable. J'avais l'impression qu'elle me parlait de ma vie, quoi.
Et on sait que le jazz, c'est donc un milieu professionnel qui est assez saturé, en fait. Il y a beaucoup de musiciens, musiciennes, qui est hiérarchisé, qui est hautement compétitif. Et donc, les musiciennes de jazz doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, d'où le nom de notre podcast, hein, Super Jazz Woman, parce qu'il faut déployer, ces femmes doivent déployer des ressources particulières pour faire leur place, en fait, dans ce milieu assez masculin. Et elles se voient, donc tu parlais de la question de la séduction, elles se voient soumise à d'étranges paradoxes. Être incité à s'exprimer de manière féminine et se voir dénigrer professionnellement de ce fait, se comporter de manière masculine et se voir marginalisé pour leur manque de féminité.
Ça, c'est ce qu'on évoquait justement, la question des codes qu'on adopte, qui ne sont pas forcément les nôtres au départ, mais voilà, dans un milieu masculin, il y a certaines femmes, alors moi je ne veux pas parler au nom de toutes les musiciennes, mais quelquefois, et on l'a entendu dans les propos de certaines invitées du podcast, on est obligé d'adopter des codes qui ne sont pas forcément les nôtres au départ pour se fondre, voilà, et pas trop ressortir, pas trop être isolé, pas trop être marginalisé, justement.
Est-ce que toi, tu veux réagir à ces questions-là ou...
Que dire ? Moi, je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose qui m'a poussée à monter mes groupes. C'était pour un petit peu avoir la paix, quand même. Évidemment, moi, je dis, il n'y avait pas de problème, mais... On a tous... j'ai fait très peu de jam sessions parce que j'étais terrorisée quand je suis arrivée de Rennes à Paris et que je les voyais tous, les gars qui jouaient vite et fort. Et j'ai pas du tout... soit on est grande gueule, soit pas. Moi, j'étais pas spécialement grande gueule et j'ai plutôt écouté. Donc, j'ai appris des trucs en écoutant. J'y suis allée pour écouter beaucoup, beaucoup de fois. Mais j'ai jamais, je crois, jamais sorti ma flûte. Vraiment, après, plus dans des jams un peu plus ouvertes, un peu plus déglinguées, à la miroiterie et tout. Là, j'ai osé, quoi. Mais... le studio des Ilettes et compagnie, je ne pouvais pas sortir plus, pas le complexe, mais l'idée que j'arrive du classique et que je suis quand même pas, j'ai pas fait du bop pendant 15 ans, donc qui je suis pour venir jouer un standard de jazz, alors que j'adorais ça, je trouvais ça hyper beau, les chansons, pas justement de jouer les chansons, quoi. Mais voilà. Et les rares fois où je me suis pointée, on m'a dit, tu veux chanter quoi ? Je disais, non, mais je suis flûtiste. Alors. Et après, il y avait des blagues sur je peux tenir la flûte, machin. Enfin, voilà, bon, ça, pour moi, c'est du. Comment dire ? Ça se loge pas que là, ça se loge dans n'importe quel. Enfin, c'est un combat au quotidien à ce moment-là, évidemment. C'est la place de la femme dans la société, quoi. Mmh. Voilà.
Les milieux, justement. Il y a...
Mais en tout cas, je pense que pour revenir à ça, le fait de monter ses propres projets, c'est de trouver une forme d'indépendance et de devenir un peu meneuse de ce que je veux être et de pas, voilà, de pas avoir à que m'adapter au groupe et à devoir me fondre dans la masse, justement. C'est une manière de se démarquer, mais en même temps de se réaliser, en fait.
Et enfin, acter que les musiciennes sont des musiciens comme les autres. Et inversement.
Voilà.
Et si on allait jouer tous ensemble, tous les trois. Let's Alors, go. Qu'est-ce qu'on joue?
Eh bien, on va jouer à tu nous as suggéré, Sylvaine, qu'on joue ensemble un morceau de PJ Harvey.
Voilà, pour bien se croiser dans ces portraits croisés. Ça s'appelle An Acre of Land, qui est un morceau qu'elle a écrit pour un film, en fait, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Dark River, je crois, quelque chose comme ça. Et je trouvais que c'était chouette parce que c'était du PJ Harvey, mais pas non plus le PJ Harvey qu'on connaît le plus et qui est vraiment teinté de rock, mais qui est plus proche là de la musique traditionnelle, un peu irlandaise ou je sais pas. Enfin, vous nous direz si vous nous écoutez.
I felt it might be the time to begin to try to see if it was possible, and I didn't know if it was, and I didn't know if I could do it well. I work on words entirely separately from music and spend a long time making a word form, work on a page, and it might be a poem to be read, or it might become a song, or it might remain a piece of prose, but that's the starting point. And that's how this record started with. Really just concentrating on the words and wondering if I could find some way to perform, but you could deal with the world in songs. I began to sing them before I touched an instrument, so I'd often walk and sing, sing and walk and sing, sing and walk, and sing and walk, and sing and walk, and sing and walk, and sing, 'cause at that time the words were so entrenched to my system, I knew them all by heart anyway. So the melodies have to be something that were conducive to wanting to sing along with. And the music had to be, like I said, uplifting. That was the starting point, really, and I also wanted it to be quite undefinable, quite unable to be pain dying, so not particularly rooted in, but of great movement. Of great movement. Movement. My father left me an acre of land. Sing ivy, my father left me.
À bientôt pour un nouvel épisode de Super Jazz Woman. Merci Sylvaine.
Merci.
Super Jazz Woman, un podcast réalisé par Chloé Caïton, Guillaume Hasbrook et Lucie Baverel. Enregistrement et mixage, Mathieu Plouchard. Production, Le Petit Faucheux, à l'initiative de Françoise Dupas. Un projet possible grâce au soutien de la DRAC Centre-Val-de-Loire et du Centre National de la Musique.